buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. En Pologne, c'est un combat au long cours que les femmes doivent désormais mener sur le droit à l'avortement. Elles pensaient avoir fait reculer le gouvernement qui voulait l'interdire. Mais début avril, le chef de file des conservateurs, Jaroslaw Kaczynski, allait jusqu'à remettre en cause le droit d'avorter en cas de malformation du fœtus. La réaction des femmes n'a pas tardé. Le reportage de Maja Szymanowska.
Nous sommes au café Państwo Miasto, c'est-à-dire Ville-État, un lieu de discussion et de rencontres à la mode à Varsovie. Aujourd'hui, la salle de conférence au-dessus du café est pleine. Les représentantes des mouvements qui se battent pour les droits des femmes tirent la sonnette d'alarme face à la politique des conservateurs. Au micro, Kazimiera Sztuka, une professeure d'université qui depuis 15 ans bat le pavé pour défendre les droits des Polonaises à disposer de leur corps.
Le gouvernement a décidé de rendre impossible l'avortement pour cause de malformations génétiques, sans que les Polonaises ne s'en rendent compte. C'est ça qui est terrible. Ils veulent duper les femmes en prétendant que « Oui, vous voyez, nous avons fait un pas en arrière et nous n'allons pas surveiller les fausses couches, les règles, comme il en était question. Mais ils feront tout de même ça, mais en douce. »
Le projet débattu à l'automne dernier, présenté par un groupe ultra-catholique hors de Iuris, proposait non seulement de vérifier si les fausses couches étaient vraiment spontanées, mais allait même jusqu'à vouloir punir de prison les Polonaises qui auraient pratiqué l'avortement. Si le gouvernement a enterré ce projet face à la grogne de la rue, c'est maintenant en prenant un chemin détourné que les conservateurs comptent s'attaquer à l'avortement. Leur arme de bataille, la clause de conscience. Elle permet aux médecins de ne pas pratiquer les soins ou interventions contraires à leur conscience. De plus en plus de gynécologues refusent ainsi de pratiquer l'avortement, voire même de rédiger une ordonnance pour la pilule du lendemain, au nom de cette fameuse clause de conscience. Katarzyna Kacpura, du planning familial, revient du Parlement polonais avec des nouvelles encore plus inquiétantes. Elle a pris note des décisions du groupe de travail appelé « Pour la défense de la vie, un an », qui est tout un programme.
C'est une mauvaise espoir.
Le groupe parlementaire pour la défense de la vie discutait de la clause de conscience. Grâce au recours à cette clause de conscience, les conservateurs veulent rendre la loi sur l'avortement caduque et obtenir qu'aucun médecin ne veuille pratiquer l'IVG. Une cellule des clauses de conscience doit être créée au ministère du Travail. Un titre honorifique va distinguer l'hôpital favorable à la clause de conscience. La possibilité du recours à cette clause va être étendue aux fonctionnaires de la sécurité sociale. Résultat, ils ne vont plus signer les contrats avec les hôpitaux pour financer les IVG.
Face à ce travail de sape qui se déroule en commission parlementaire et va être introduit par petites touches, les multiples associations de femmes qui sont nées de grands mouvements de contestation de l'automne dernier ont décidé d'unir leurs forces. Ainsi est née la Coalition pour l'égalité et le libre choix. Wielka Koalicja dla Równości i Wyboru. Les initiales donnent le mot wkurw, ce que l'on pourrait traduire par rage, une bonne illustration de l'état d'esprit de ces Polonaises. Agnieszka Czereżderecka est l'une des leaders de ce mouvement.
Les femmes des petites villes ne sont pas forcément au courant des menaces. Pour qu'elles soient au courant, nous nous unissons. La dernière fois, à l'automne, nous avions eu moins d'une semaine pour organiser une riposte. Ça n'a pas été facile. Maintenant, grâce à ce réseau, nous sommes prêtes à nous mobiliser à tout moment et à nouveau, s'il le faut, descendre dans la rue pour défendre nos droits.
Jarosław Kaczyński, le chef de file des conservateurs au pouvoir, campe sur ses positions. Prêt à tout pour déposséder les femmes de contrôle des naissances, il veut faire pression sur les médecins. La réaction de la nouvelle coalition pour l'égalité et le libre choix crée un livre noir qui prévient à quel gynécologue il ne faut pas s'adresser. Explication d'Agnieszka Grzybek à l'origine du projet.
Nous voulons publier ce livre noir à la fin de l'année. Nous avons commencé à récolter les récits que les femmes partagent avec nous à chaque fois que leurs droits ont été bafoués. Nous allons créer une page sur notre site internet intitulée « Livre noir » qui recense toutes ces histoires.
La coalition ne veut pas s'arrêter à cette mesure. Le bras de fer se jouera de nouveau, selon elle, dans la rue, dans les semaines qui viennent.
Moi, je suis dangereuse. Je joue, tout le monde veut jouer avec moi.
pas pourquoi. Je joue.
Les Britanniques ne jouent pas seulement l'avenir de leur pays au sein de l'Europe, ils jouent aussi tout court et de plus en plus. La vente de jeux destinés aux adultes a augmenté de 65% depuis 2012. Le marché pèse aujourd'hui plus de 350 millions d'euros au Royaume-Uni. Et on peut le constater rien qu'en prenant le métro, Marie Billon.
Un homme en costume et une femme en tailleur en train de jouer avec des figurines de super-héros dans le métro, ça ferait bizarre, même au pays du Britannique excentrique. Alors qu'en fait, presque tous les adultes font la même chose, ici ou ailleurs, mais plus discrètement. Ils jouent à Candy Crush sur leur téléphone portable. Bref, ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on n'a plus le droit de faire joujou. Selon l'étude de NPD Group, ce sont les jeunes de 18 à 34 ans qui ont le plus de mal à ranger leurs jouets une bonne fois pour toutes. À eux seuls, ils ont acheté pour plus de 150 000 livres sterling de jeux en 5 ans. Alors les figurines collector de Star Wars par exemple, qui coûtent des milliers des cents, pèsent lourd dans ces chiffres, mais il y a plus simplement aussi des Lego, des petits poneys et surtout bien sûr des jeux de société. Ces dernières années, les cafés games se sont multipliés. À Londres, certains servent même des cocktails au nom inspiré de l'univers des jeux, de la liqueur The Clicker à Alien Ébriété qu'on peut donc siroter en jouant au Cluedo ou à Time's Up. Mais cette lubie n'est pas cantonnée à la seule capitale. Il faut dire que la tradition des jeux de société est vivace dans les pubs. Beaucoup ont gardé leur flipper ou leur monopoly sans oublier les game nights, ces soirées hebdomadaires où les piliers de bar jouent aux devinettes. La vie est trop importante pour être prise au sérieux, confirment de nombreux psychologues. Ce sont les petits-enfants qui ont raison. Le jeu a la capacité de solliciter le cerveau d'une manière très efficace et renoncer à cette stimulation en grandissant est une erreur. S'amuser à tout âge a aussi des effets bénéfiques sur le bien-être.
Une autre recette pour se faire du bien, c'est parfois de faire du shopping dans les magasins de vêtements, sans qu'on sache toujours si leur fabrication s'est déroulée dans le respect des droits sociaux et de l'environnement. Toute la semaine, les acteurs du collectif Fashion Revolution organisent des manifestations dans 92 pays. Un collectif né il y a 3 ans en Grande-Bretagne après l'effondrement au Bangladesh du Rana Plaza. Ce bâtiment hébergeait les ateliers de confection de multinationales du textile. En France, jusqu'à dimanche soir, plusieurs événements ont lieu à Paris et dans plusieurs villes de province. Le reportage de Pauline Bandelier.
Lundi 24 avril, c'est le lancement de la Fashion Revolution Week à l'atelier Meraki dans un arrondissement de l'Est de Paris. Coordinatrice du mouvement en France, Isabelle Kay est une pionnière de la mode éthique et la fondatrice en 2004 de l'Ethical Fashion Show.
Fashion Revolution nous montre comment nous pouvons interférer en tant que citoyen pour que le pouvoir de la mode puisse changer le monde. Fashion Revolution nous encourage à interpeller les marques pour leur demander plus de transparence sur leur chaîne de production.
Le 24 avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza causait la mort de 1133 personnes et plus de 2500 blessés, révélant au monde entier les conditions inhumaines dans lesquelles travaillaient les petites mains de l'industrie du vêtement. 4 ans plus tard, la situation des ouvriers sur place reste précaire, explique Naïla Ajaltouni, coordinatrice du collectif Éthique sur l'étiquette.
Le Bangladesh continue de dépendre à 80% du secteur textile pour ses entrées en devises et continue d'être le pays où la main-d'œuvre est la moins chère dans le secteur de l'habillement. Il y a eu des évolutions avec un assouplissement de la loi du travail quelques mois après le drame. Donc le gouvernement du Bangladesh a été poussé, une pression politique s'est exercée pour qu'il respecte mieux les droits des travailleurs, notamment la liberté syndicale. Les salaires ont augmenté de 70%, mais c'était déjà il y a 3 ans, 4 ans. Très récemment, le Bangladesh a réprimé pendant un mois et demi des manifestations de travailleurs qui s'étaient mis en grève pour réclamer une augmentation de salaire qui devait avoir lieu et qui n'a pas eu lieu.
Le 23 avril dernier, le collectif a remporté une victoire importante avec l'adoption d'une loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Les ONG pourront désormais saisir un juge français pour des dommages commis à l'étranger, y compris par les sous-traitants et fournisseurs. Le résultat d'un combat de longue haleine que Naïla Ajaltouni mène en partenariat avec d'autres associations européennes.
On est membre d'un réseau européen qui s'appelle Clean Clothes Campaign, qui vise à faire évoluer l'industrie globalisée du textile. Donc on a des campagnes, des actions coordonnées dans 16 pays européens. Et on travaille directement en lien avec dizaines d'organisations, de syndicats, d'ONG dans les pays de production textile. C'est par ce biais qu'on obtient des informations, qu'on documente les violations. Et ensuite, au niveau français et européen, on collabore bien entendu avec des ONG défense des droits des travailleurs, des syndicats, parce que ce combat de la mondialisation des droits, elle est évidemment un combat à mener au moins à l'échelle européenne, étant donné aussi la structure des multinationales que l'on cible. Donc c'est vraiment un travail collectif.
Ces dernières années, une multitude de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché de la mode éthique. Pour se repérer, Isabelle Kéhé propose quelques pistes.
Il y a les labels, les co-labels. Après, selon les pays européens, il y en a certains qui sont différents. Donc ça peut labelliser la matière organique. Puis après, le travail, ben, c'est GOTS, quoi, le côté social. Et s'il n'y a pas de label, c'est regarder les sites, interroger les marques, voilà.
Autre solution, le recyclage. Gaëlle Constantini, éco-designer, travaille à partir de textiles usagés pour lutter contre la pollution causée par la production textile, deuxième industrie la plus polluante au monde. À l'atelier Meraki, elle présentait mardi son travail.
Donc aujourd'hui, on a fait une exposition en fait sur les différents thèmes que l'industrie textile pollue le plus. Donc l'eau, la terre, la forêt et l'air. Donc il y a ces quatre univers qui sont détaillés. Donc en fait, ça fait partie de la première collection qui s'appelle Neo Green 01 et qui est produit par des ateliers d'insertion professionnelle.
Autre actrice de la mode éthique, Nadine Gonzalez, présidente de l'association franco-brésilienne Moda Fusion et fondatrice de l'école Casa Geração à Rio de Janeiro.
C'est une école qui est basée dans une favela, qui est gratuite pour les jeunes des favelas au Brésil depuis 2013, mais qui accueille tout le monde, qui est pour les 18-25 ans et qui propose tout un éveil à la créativité, autant en création, savoir-faire, image, et surtout qui valorise en fait les esthétiques de la périphérie. Au Brésil, on a même défilé à São Paulo Fashion Week. On a des résultats incroyables, enfin, on a 95% d'insertion professionnelle au Brésil.
Forte de ce succès, Nadine Gonzalez espère aujourd'hui développer une école similaire pour les jeunes de la Seine-Saint-Denis. La Fashion Revolution Week se poursuit samedi et dimanche avec des événements à Paris, Nantes, Roubaix et à travers l'Europe.
Il y a près de 20 ans, les Irlandais disaient adieu à Father Ted. Cette éphémère série télévisée mettait en scène le quotidien et les déboires de trois prêtres exilés pour mauvaise conduite sur l'île fictive de Craggy. Une comédie à l'humour délicieusement absurde qui se moquait de l'église catholique, une institution dans le pays. Mais qu'importe, à l'heure où l'Irlande connaît une sécularisation croissante, Father Ted reste une référence et rassemble même chaque année des adeptes, des fans qui se réunissent ce week-end pour célébrer le culte de leur héros télévisé, Julien Lagache.
C'est en 2007 qu'est né le Father Ted Festival, plus connu sous le nom de Ted Fest. Les fans se donnent rendez-vous dans le comté de Clare, à l'ouest de l'Irlande, toujours à proximité des lieux de tournage de la série, et si possible sur l'île d'Inishmore, qui a été consacrée il y a 10 ans comme seule et véritable île Craggy. C'est là que le père Ted aurait été envoyé pour officier après avoir détourné de l'argent destiné aux deniers du culte, notamment pour faire un voyage à Las Vegas. Quel meilleur hommage donc pour les centaines d'adeptes réunis chaque année que d'endosser pour quelques jours la soutane de ce curé à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, mais qui se distingue surtout par son exemplarité discutable et qui occupe son temps comme il peut, sauf à célébrer la messe. Au premier jour, on est plutôt sérieux, visite des lieux accompagnés de solides encas distribués à volonté, un peu comme à la télévision où Mrs. Doyle, la gouvernante, avait pour unique mission de servir et resservir sans cesse tout le monde en thé et en gâteau. Bien sûr, libre à chacun de rejouer à l'envi les meilleures scènes ou les meilleurs dialogues appris par cœur. Le reste du week-end prend vite une autre tournure, directement inspirée par la série. Le programme propose le samedi après-midi un tournoi de football interprètre catégorie plus de 75 ans. Pour se remettre de ses émotions, rien de tel qu'une partie de cache-cache nonne où, comme son nom l'indique, il faut trouver la meilleure cachette pour une religieuse. Des religieuses invitées plus tard à concourir dans une autre compétition, celle de la plus belle nonne du festival. Et puis, aucun Tête Fest ne serait complet sans les soirées karaoké des prêtres pour communier une dernière fois et en chanson autour d'un célèbre épisode qui se moquait de la victoire de l'Irlande à l'Eurovision, et tout cela forcément bien arrosé et certainement pas à l'eau bénite. My lovely horse, you're a pony no more. Running around with a man on your back like a train in the night. Wait, wait, I can do this bitch. Like a train in the night. Well, what do you think in general? Right. De la vraie musique maintenant avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Laurent.
Aujourd'hui on marie le plaisir des différentes cultures.
Je vous propose aujourd'hui de découvrir un album en forme de melting pot. Your Name, c'est le deuxième disque de Natasha Rogers, jeune chanteuse néerlandaise aux racines amérindiennes, installée en France et passionnée par les cultures afro-cubaines, mandingue ou encore le jazz. Natasha Rogers a d'abord pratiqué le piano avant de découvrir la danse et les percussions africaines, un pédigré qui donne le ton de chansons ouvertes et généreuses, écrites et chantées en anglais, en espagnol ou en français, arrangées essentiellement avec des instruments acoustiques et toujours guidées par une évidence mélodique rafraîchissante, une jolie révélation.
Danser quand je passe par là, belle, sensuelle, désir et plaisir. Sois généreuse et aime-toi. Yemaya, aima de demain, oh salé, tranquillité. Yemaya, ce saut, yemaya.
Extrait du second album Sans frontières de Natasha Rogers pour refermer cette édition d'Accent d'Europe, réalisée comme toujours et mise en onde par Françoise Grelot. On se retrouve lundi dès 17h40 en universel. Toutes les émissions de la semaine sont à retrouver sur RFI.fr à la page émissions.